Nous ouvrons la seconde partie de cet après-midi avec l'intervention d'Estelle Seuillet, le fil d'une image, comment étudier la diffusion d'une photographie du roi des rois d'Éthiopie à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Alors je vous cède la parole immédiatement parce qu'il va falloir tout de même penser à réserver un temps de discussion réelle.
Les récits de voyageurs nous apprennent que Ménélique II, roi, puis roi des rois d'Éthiopie entre 1889 et 1913, encouragea les visiteurs étrangers à le photographier, lui et sa femme, dès le début des années 1880, alors que les mêmes sources rapportent aussi la méfiance et parfois l'épouvante de la population éthiopienne à la même époque vis-à-vis de l'appareil photographique. Le roi Ménélique ne cessa au cours de sa carrière d'agrandir et de protéger l'indépendance de son territoire et fut un des fondateurs de l'Éthiopie contemporaine. Je rappelle que ses troupes repoussèrent l'armée italienne en 1896 et que, cas unique en Afrique, le pays resta alors indépendant jusqu'en 1936. Le roi était un amateur de nouveautés techniques dont il encouragea l'introduction tout au long de sa carrière. Je pense au téléphone, au chemin de fer, à l'arrivée des premières voitures. Et son attirance pour la photographie procède en partie de cette curiosité. Nous connaissons nombreux portraits du roi, seul ou accompagné de sa femme, accompagné de sa cour, à différentes époques de sa vie, en majesté ou dans sa tenue de tous les jours. Ces portraits sont arrivés jusqu'à nous par l'intermédiaire des récits de voyage, des collections ou fonds photographiques privés ou publics, par l'intermédiaire des agences photographiques. Et ces documents nous transmettent un message sur le pouvoir et la force du souverain. Mais pour donner une perspective historique à ces images produites dans un cadre politique, il est nécessaire de s'interroger, entre autres, sur la diffusion dont ces documents furent l'objet au moment de leur création. En premier lieu, on peut se demander s'il existait à l'origine une volonté politique de diffuser ces documents. Le cas échéant, pourquoi et auprès de qui? Connaît-on des pratiques sociales autour de ces images en Éthiopie? L'introduction de la photographie bouleversa la représentation iconographique du pouvoir éthiopien, dépeint jusqu'ici seulement très occasionnellement dans la peinture religieuse, comme Claire nous l'a montré hier. Et l'introduction de la photographie dans le pays entraîna de nouvelles possibilités de représentation des dignitaires. Aussi, on peut se demander comment cette innovation a-t-elle permis au pouvoir chrétien éthiopien d'exploiter et de diffuser ces images dans un but politique, à la fois dans le royaume, mais aussi à destination de l'étranger. Pour répondre brièvement à ces questions, nous verrons d'abord dans quelle mesure les photographies du souverain, prises exclusivement par les étrangers pendant toute la période, répondaient à une demande occidentale à une époque où l'Éthiopie ou son indépendance était un enjeu international. La deuxième partie visera à comprendre comment et pourquoi le roi répondit à cette demande étrangère. Enfin, la diffusion de l'image à l'intérieur du pays est pour moi la question la plus difficile à résoudre. Toutefois, certaines sources écrites et iconographiques nous permettent d'envisager cette question. Ce sera l'objet de la troisième partie. Un portrait de profil du roi reproduit sur de multiples supports nous mènera à la fois dans le temps, tout au long de la carrière du roi et au-delà de sa carrière, et dans l'espace du cœur du royaume chrétien vers l'Occident. Je vais commencer tout de suite par l'enjeu à l'étranger que représentait la photographie. Comme je vous l'ai dit en introduction, les photographies du roi Ménélique ont été réalisées, certes, à la demande du roi, mais par des étrangers. Aussi, on peut s'interroger, avant de parler de leur diffusion, on peut se demander si ces documents étaient l'objet d'une demande à l'étranger et quels étaient les enjeux de cette demande. Les premières photographies de pouvoir politique diffusées en Éthiopie furent certainement des portraits de chefs d'État occidentaux, comme des portraits de la reine Victoria, puisqu'on sait que des portraits photographiques ou des portraits sous forme de peinture furent offerts au roi éthiopien dès les années 1880. En effet, en Occident, la photographie a été utilisée par le pouvoir politique assez peu de temps après sa création, dès les années 1850, avec les portraits de chefs d'État éthiopiens. On peut penser à la reine Victoria ou à Napoléon III. Peu de temps après, la photographie fut aussi utilisée par la diplomatie. Et en fait, dès leur entrée en fonction, les ministres se faisaient photographier, et ces photographies étaient distribuées comme cadeaux aux hôtes de prestige ou aux correspondants étrangers. La photographie occupa aussi une place grandissante dans la correspondance diplomatique avec les pays des régions touchées par l'expansionnisme européen. En effet, objet diplomatique, la photographie servait aussi à témoigner et à rendre compte d'événements ou de personnages lointains, inaccessibles, qui marquaient les esprits. Ainsi, après la retentissante bataille d'Adoua de 1896, où les troupes de Ménélique vaincurent l'armée éthiopienne, on peut remarquer que des portraits de Ménélique furent diffusés dans toute la presse illustrée occidentale. Et certaines phrases dans les récits de voyage nous montrent d'ailleurs que les photographies étaient connues des voyageurs avant leur arrivée dans le pays. Les mêmes récits de voyage publiaient eux aussi des photographies du roi et consacraient généralement un passage à sa description physique. Par exemple, un voyageur italien au début des années 1890 avertissait ses lecteurs que si sur la photographie Ménélique apparaissait plutôt laid et vulgaire, en réalité, sa physionomie était plutôt sympathique et bienveillante. Si la photographie permettait de satisfaire la curiosité d'un public occidental, elle était aussi, à cette époque, utilisée pour étayer les théories raciales en cours, à l'époque, à la suite des théories darwiniennes. Par exemple, pour l'étude des traits des faciès ou pour la craniométrie. Par l'étude des traits des faciès, par la craniométrie, les anthropologues ou les criminologues classifiaient les populations et ils avaient parfois ou souvent recours à la photographie. Vous savez, c'est les photographies de face et de profil qu'on retrouve beaucoup à cette époque. En Italie, le plus connu des théoriciens de ce type était Lombroso. Dont les théories étaient très diffusées à l'époque en Italie, à la fois parmi les intellectuels et la population. J'évoque le cas de Lombroso et de l'Italie parce que le premier cliché de Ménélique que je veux vous montrer est conservé à la Société de géographie italienne. Il peut être comparé à un portrait anthropologique. Il a été réalisé par un Italien dans les années 1890. Cette photographie fait partie d'un album qui rassemble 130 photographies de type ethnologique. Cet album rassemble des photographies de femmes, d'hommes, d'enfants, photographiées à la fois de face et de profil. Et Ménélique se trouve au milieu de l'album. Les deux photographies de Ménélique se trouvent dans cet album au milieu des photographies de ces sujets. Brièvement, pour décrire l'image, le fond de l'image est sombre, ce qui met en valeur le profil du roi, sujet exclusif de ce cliché. Ménélique est pris de profil, il regarde vers la gauche. Il est photographié légèrement en plongée et à très courte distance. L'éclairage provient de la gauche, il éclaire le visage du roi. Mais Ménélique ne semble pas regarder vers la lumière, qu'il subit plutôt. Puisqu'on voit que la lumière démasque les imperfections de ses traits. On observe ses cernes, on observe toutes les marques de sa peau qui avait été rongée par la petite vérole. On peut même apercevoir le trou du lobe de l'oreille qui avait été laissé par une boucle d'oreille. On devine aussi un blanchiment de sa barbe. Ces deux seuls attributs sont un tissu de mousseline et une cape qu'on appelle une kaba, ces deux attributs du pouvoir éthiopien. Le regard du roi est fixe et son visage est figé, il n'a aucune expression particulière. et on ne peut y voir ni peine, ni joie, ni attention vers un élément quelconque. Le roi semble être dans une attitude passive vis-à-vis du photographe et donc vis-à-vis du spectateur de l'image. Le roi se prête ainsi au jugement, d'autant plus qu'il est photographié légèrement en plongée, ce qui n'avantage pas le profil. Et en fait, la lumière, l'angle et la distance à laquelle a été photographié le roi font ressortir sa condition d'humain, marquée par la maladie, par son passé, par le temps, avec les cicatrices au visage, avec les cernes. Et en fait, pour les spectateurs italiens auxquels était adressé ce cliché dans les années 1880, le roi apparaît comme rassurant, il apparaît comme un humain à portée de conquête, si j'ose dire, parce que c'est un roi qui a des faiblesses, des défauts. Et le roi est ici classifié, hiérarchisé au même titre que tous les habitants de sa région. Et donc on en fait un sujet comme les autres, et donc un sujet prêt pour un éventuel protectorat italien. Il aurait été intéressant de savoir si ce cliché avait été diffusé dans les journaux de l'époque ou dans les récits de voyage, mais j'ai pas d'informations à ce sujet. Le deuxième portrait de Ménélie que je vais vous présenter est à la fois très proche et complètement différent de la première image. Il s'agit toujours d'un portrait de profil du roi, cette fois-ci regardant vers la droite. Ce portrait a été réalisé par un Français, Léon Chefneux, quelques années avant le précédent. Les deux portraits ne sont pas vraiment comparables parce qu'ici on a seulement une reproduction en gravure du portrait, parce que j'ai pas pu retrouver la photographie originale. Toutefois, on peut voir à la pose du roi que l'intention de l'auteur de la photographie est complètement différente, puisque cette fois-ci le roi n'est plus photographié en plongée. Le photographe a mis son appareil au même niveau que le photographier. Sur cette reproduction et toutes les reproductions dont nous disposons, la source de lumière est homogène, elle est mieux répartie sur le profil du souverain. Les défauts physiques du visage royal sont totalement invisibles cette fois-ci, et au contraire, ici on a plus une impression de force physique qui se dégage du portrait, dont la lumière met par exemple en valeur la puissance du coup. Cette fois-ci, une expression se dessine sur le visage grâce au regard du roi, qui a les yeux fixement dirigés devant lui, ce qui lui donne une impression de fermeté, de décision et de force de caractère, renforcée par un léger pincement de la bouche. Et ici, le roi se prête une nouvelle fois à la contemplation des spectateurs de l'image, mais cette fois-ci, les spectateurs ne sont pas amenés à contempler un homme et ses défauts, mais plutôt l'incarnation d'une force et d'un esprit ferme et décidé. On peut se demander quel était le contexte de prise de vue de ce portrait. En fait, le contexte est celui d'une lutte à la cour entre les Italiens et les étrangers de toutes les autres nationalités, suisses, français. C'était des négociants, des géographes qui étaient à la cour du roi pour leur intérêt personnel, pour faire du commerce. Et en fait, ces personnages luttaient pour obtenir les faveurs du roi, desquelles dépendaient leurs affaires. Voilà. La plus ancienne reproduction de ce portrait du roi que j'ai retrouvé, c'est un portrait conservé dans une église qui a été réalisé par Léon Chefneux, ce Français, à Paris, et qui a été renvoyé au roi Ménélique à l'occasion de son mariage avec la reine Taïtou. Et en fait, on voit ici que, à l'image, au portrait original, a été rajoutée la couronne, qui n'a pas une forme très réaliste d'ailleurs, et a été réalisé tout l'encadrement autour. Ce négociant, Léon Chefneux, ainsi que tout un groupe d'étrangers au service du roi, avait tout intérêt à ce que l'Éthiopie reste indépendante, pour rester à la cour et pour continuer à travailler avec le roi. Et ils soutenirent le roi d'Angoudin. Merci. Il soutint le roi dans la lutte pour l'indépendance de son pays, notamment par le biais de la production et de la diffusion iconographique. C'est l'objet de ma seconde partie. En 1889, année de l'accession de Ménélik au trône de roi des rois, les Italiens conclurent avec le roi un traité dont un des articles, mal traduit, transformait l'Éthiopie en protectorat italien. Et en fait, c'est à partir de ce moment, puis à partir juste après de la bataille d'Adoua contre les Italiens quelques années plus tard, que se multiplièrent les représentations du roi en Occident. En effet, c'est toujours le même Léon Chefneux, l'auteur de la photographie que vous aviez vue avant, qui a encouragé le souverain à protester de l'indépendance de son pays en faisant acte de souverain indépendant. Et pour cela, il a incité le roi à faire frapper des pièces de monnaie à son effigie à Paris en 1894. Les pièces furent donc frappées à la monnaie de Paris, et un an après, des timbres, toujours à l'effigie de Ménélik, furent imprimés également à Paris. J'ai oublié les timbres. Bon, vous ne verrez pas les timbres, mais c'est le même portrait de Ménélik qui a été repris sur ces timbres avec un entourage, avec un cadrage. Le but de ces documents était de circuler surtout dans les pays étrangers, avant d'avoir toute fonction pratique dans le pays, puisque la poste était en Éthiopie dans un état seulement embryonnaire. On peut remarquer que la production de ces documents entraîna de vives protestations du gouvernement italien auprès du gouvernement français, ce qui prouve l'importance politique de la fabrication de ces images. Et en fait, le portrait de Ménélik II en majesté sur un support comme la pièce, comme vous avez ici, est l'opposé d'un portrait de type anthropologique, comme j'ai pu vous le montrer au début. Puisqu'ici, puisque le portrait du souverain gravé dans un métal précieux ne peut pas entrer dans une hiérarchie, puisque son portrait est unique. En fait, son physique ne se prête pas ici au jugement en tant que simple être humain. S'il doit être comparé, il peut être seulement comparé aux souverains qui ont également battu monnaie. Le roi n'est donc plus ici seulement un homme, mais un souverain à la tête d'un État, puisque son profil est dès lors indissociablement lié à son nom de règne, qui est gravé tout autour, à son titre et au nom de son pays. Mais il semble que ce soit toutefois surtout après 1896 et la victoire d'Adoua que le profil du roi fut réellement diffusé en Occident sous différentes formes, parce que le souverain éthiopien avait éveillé la curiosité et la surprise des Occidentaux. Ainsi, on trouve à partir de cette époque l'effigie du roi représentée sous toutes sortes de supports. Ici, on a par exemple une médaille en or. Au revers, on a l'effigie de Saint-Georges avec le dragon. Mais on trouve aussi son portrait reproduit sur... Là, c'est une médaille qui a été produite en France. Là, vous avez un récit de voyage qui a été publié par l'époque et qui reprend encore le portrait du souverain qu'on trouve sur les pièces de monnaie. Là, c'est toujours ce même portrait qui a été réalisé sur un bronze. Son auteur, Ribeiro, est inconnu. Et je ne sais pas à combien d'exemplaires cette plaque a été réalisée. Mais en tous les cas, la multiplicité de ses supports montre que cette image était connue et diffusée à l'époque. Encore, ça c'est une note, c'est un dessin qui a été fait à partir de la même photographie. Et si on peut voir que le cou du roi a été élargi pour ce qui renforce encore l'impression de puissance du roi. Voilà. Après cette bataille, voilà. Après cette bataille, c'est donc le profil du souverain puissant et décidé qui triomphe. Un autre relais entre l'Éthiopie et les pays étrangers était aussi la ville de Jérusalem. Je saute d'un sujet à l'autre, mais je vais vous expliquer. Depuis le Moyen-Âge, il y avait des contacts entre l'Éthiopie et Jérusalem, où se rendaient des pèlerins éthiopiens et où étaient installés des prêtres. Un endroit avait été concédé au roi éthiopien pour l'accueil des pèlerins. Et le chroniqueur du roi Ménélique II nous apprend que le roi y avait fait achever une église. Alors le chroniqueur décrit ainsi l'église. On ne trouvera jamais une église plus belle que celle-là. On ne rencontre ni en Europe, ni en Asie, ni en Afrique une église qui lui ressemble. On l'aperçoit de très loin. Tous les pèlerins de Jérusalem vont la visiter avant toutes les autres et en baiser les murs d'enceinte. Ils aperçoivent près du Dejé Salam, qui est une des portes principales de l'église, l'image de Ménélique II sculptée dans la pierre et entourée des lions d'Éthiopie. Voilà, une note nous apprend ensuite que le portrait de Ménélique qui était gravé sur cette église de Jérusalem était également ce portrait de profil du roi. L'église éthiopienne de Jérusalem était comme une vitrine internationale de l'Éthiopie, puisque la ville était un point de convergence pour les chrétiens du monde entier. Ce qui est intéressant, j'ai pas vu cette église, je ne sais pas si elle existe toujours, mais ce qui est intéressant de noter, c'est la façon dont cette église et dont ce portrait sont décrits par les sources royales, puisque le discours, après avoir mentionné la beauté de l'église, ce discours insiste sur, passe tout de suite à la description de cette image, et lui accorde beaucoup de valeur. Et en fait, tous les pèlerins de Jérusalem dans le récit vont voir cette église et admirent cette église. Mais puisqu'il y a le portrait du roi, ils vont aussi, ils se dirigent aussi vers le roi. La chronique royale ne nous parle pas d'un tel portrait pour une autre église éthiopienne. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, le portrait sur l'église de Jérusalem est bel et bien destiné aux regards étrangers, et en particulier aux étrangers chrétiens. Pour conclure cette partie, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas trouvé le portrait photographique à l'origine de tous ces documents. C'est peut-être le fait du hasard des recherches, mais cette absence est peut-être aussi significative, puisque la reproduction d'un portrait sur des supports tels que la médaille, sur du bronze, sur des pièces de monnaie, permettait, au contraire de la photographie, de mettre une distance entre le personnage représenté et le spectateur. En effet, le montage d'un portrait sur un autre support éloigne le personnage représenté d'un environnement humain pour le transposer dans une autre dimension, celle des souverains, celle des personnages hors du commun, sur les médailles par exemple. Sur le monde du divin, sur les murs des églises par exemple. Voilà. Et ces différentes diffusions du portrait de Ménélique sur ces supports à destination de l'étranger nous montrent que les représentations du roi furent exploitées à travers un véritable système par le pouvoir éthiopien pour se faire connaître et reconnaître des autres gouvernements, notamment des Occidentaux, à l'heure où l'on contestait au gouvernement africain le droit et la capacité à s'auto-administrer. Voilà pour l'étranger, mais qu'en était-il de la diffusion et de l'utilisation de ces images à l'intérieur même du pays? C'est l'objet de ma troisième partie, que je vais essayer de faire brève. J'avais commencé mon exposé en évoquant la diplomatie occidentale. Donc on peut d'abord se demander si les photographies du roi, ou les représentations du roi, furent utilisées à l'attention des diplomates dans le pays. Et des récits de voyage ou des récits de diplomates après la bataille d'Adoua nous donnent quelques informations à ce sujet. Ainsi, le récit d'un diplomate qui faisait partie de la première délégation américaine envoyée par envoyé en Éthiopie pour signer des accords avec Ménélik au début du XXe siècle. Donc ce récit nous dit que les membres de la mission furent logés par l'un des grands chefs du pays et que dans la pièce principale où ils étaient logés, un portrait du roi Ménélik était accroché en bonne place aux côtés d'un portrait du patriarche d'Alexandrie. Un autre témoignage d'un autre visiteur dans une autre ville, cette fois-ci à Harar, nous dit qu'il fut reçu en grande pompe par l'un des principaux dignitaires éthiopiens de Ménélik, avec des drapeaux dans la ville, des coups de feu de bienvenue, et que dans la pièce du palais où il fut reçu, étaient suspendus au-dessus du chef des holographies, des portraits des souverains Ménélik et de sa femme Taïtou, qui étaient peut-être ceux qu'on avait vus, peut-être réalisés à partir de cette image. Je ne veux pas multiplier les exemples, mais ceci nous montre juste peut-être que les portraits du roi furent utilisés parfois par les chefs et suspendus en bonne place pour être vus des hôtes étrangers importants, pour peut-être montrer la souveraineté du roi éthiopien, son omniprésence dans le pays, mais aussi peut-être pour démontrer aux étrangers la fidélité de ces chefs vis-à-vis de Ménélik et l'unité du pouvoir politique dans le pays face à ces étrangers. Il est plus difficile de s'interroger sur la diffusion des images en Éthiopie la diffusion des images dans le pays pour les Éthiopiens. Voilà, alors on sait que cette image, un récit de voyageurs nous apprend que cette image était exposée dans une église, dans l'église du lieu de naissance du roi, au début du XXe siècle. J'ai aussi trouvé de nombreux portraits du roi Ménélik représentés dans les églises aussi à partir de photographies. Mais j'ai jamais trouvé exactement ce portrait parce que les conventions picturales et religieuses éthiopiennes veulent qu'on ne puisse pas représenter seuls les méchants dans les églises soient représentés de profil, puisque les yeux et le regard étaient véhicules d'une certaine puissance, et que représenter le méchant ou l'impie avec les deux yeux, c'était accorder une puissance et une capacité de nuisance à cet ennemi. Donc en fait, l'image du roi qu'on retrouve dans une vingtaine d'églises éthiopiennes, au moins c'est une autre image du roi représentée cette fois de face. On peut ici noter que c'est l'introduction de la photographie qui permet au roi de diffuser son image dans les églises à travers la photographie qui servait de modèle aux peintres. J'ai trouvé aussi ce même profil représenté sur un autre support religieux. C'était une bannière qui est conservée dans un musée, dans un des musées de la ville d'Addis Abeba. Et cette bannière est brodée, elle fait environ 1,80 m de haut. J'ai malheureusement pas pu la photographier. Elle représente au centre une image de Marie et de l'enfant. Mais en bas, à gauche, on retrouve notre portrait de Ménélik, de couronné, de profil. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on sait que cet objet était utilisé dans les manifestations religieuses, était emmené en procession à la guerre ou dans les principales manifestations religieuses. Ces deux exemples de reproduction du portrait du roi en Éthiopie dans des lieux ou sur des objets religieux aux côtés des saints ou de Marie nous amène à nous interroger sur la place de l'image dans la culture chrétienne éthiopienne. En Éthiopie, jusqu'au début du XXe siècle, l'image avait des fonctions bien précises, celle de représenter le monde du divin et des esprits et leur rapport avec le monde. Les images pouvaient soigner, pouvaient guérir, pouvaient faire des miracles. Et en fait, oui, ça m'amène à dire que Au temps de Ménélique, ou tout au moins pendant la première partie de son règne, il semble que les images du souverain ne furent pas diffusées en grand nombre. Puisque les représentations de Ménélique qu'on trouve en Éthiopie sont assez isolées, toutefois leur importance, vu la culture de l'image du pays, n'était pas la diffusion de ces images, mais était l'importance qu'elles avaient et le fait qu'elles exprimaient une vérité, qu'elles étaient liées à une présence. Voilà, je vais conclure avec un autre type de source pour essayer de comprendre la diffusion des images dans le pays. Voilà, un autre type de source pour essayer d'envisager la diffusion des images dans le pays, c'est la mise en abîme des photographies ou des images. Quand, par exemple, à l'intérieur d'une photographie, on peut voir une autre photographie. Ici, la photographie était prise juste avant un Geber, c'est un banquier royal. Celui-ci était particulièrement important puisque la légende nous apprend qu'il avait été servi à 10 000 personnes, certainement dans les années d'après la mort de Ménélique. Et en fait, si on regarde bien l'image, on peut voir là, en haut à gauche, je ne peux pas zoomer là, mais en fait, on reconnaît clairement le profil de Ménélique que je vous ai montré, que je vous ai déjà montré au cours de l'exposé. En fait, normalement, pendant les Geber, pendant les banquets royaux, le roi était là. C'était lui qui offrait à ses sujets le banquet. Et là, peut-être après sa mort, ses photographies, je crois qu'il y a d'autres photographies un peu plus loin, ces photographies furent suspendues pour compenser, pour pallier l'absence du souverain. J'ai d'autres photographies comme celle-là, c'est pas facile non plus de voir, mais on peut voir qu'en fait là, toute la foule converge vers l'entrée de l'église, et à l'entrée de cette église, il semble qu'il y ait un triptyque. Et en fait, la plus grande de ces images est encore un portrait de Ménélique, mais ici représenté de face. Et en fait, dans les deux cas que je viens de vous montrer, les deux cas montrent que, comme dans le cas de la bannière utilisée pendant les processions, le portrait du monarque était affiché à l'occasion d'une cérémonie religieuse ou politique spéciale, et que ce portrait servait de point de convergence et de ralliement des sujets autour de ce portrait. Mais quelle est la fonction de ces portraits ? En fait, on peut voir dans ce triptyque, que le portrait de Ménélique est placé à côté du portrait de la Vierge ou du portrait de Jésus. Et en fait, les fonctions des portraits des saints ou des portraits de la Vierge, en fait, ces portraits exprimaient une présence, exprimaient dans les églises la présence du divin. Et peut-être que, de même, montrer Ménélique en portrait exprimait non pas seulement un souvenir, mais vraiment la présence toujours du souverain parmi ses sujets, alors que le souverain était décédé, que son décès avait entraîné beaucoup de troubles politiques dans le pays. Voilà, et les images du roi avaient eu également un rôle dans la transmission du pouvoir, puisque les sources écrites nous apprennent que les images étaient également arborées au cours des funérailles des grands personnages, dès le début du XXe siècle. Les images du roi pouvaient donc pallier l'absence du souverain pour la bonne marche du royaume, pour la paix sociale, pour la transmission du pouvoir. La représentation du roi en Éthiopie servait également à expliciter les relations entre les humains et le divin, dont le souverain était dépositaire sur terre, selon l'idéologie royale éthiopienne. Et donc la portrait de la diffusion du portrait du souverain en Éthiopie ne dépendait donc pas du nombre de documents diffusés, mais bien de la place à laquelle elles étaient diffusées et des événements pendant lesquels elles étaient diffusées, en raison de la valeur accordée aux images dans la culture chrétienne du pays. Voilà, je pense que je vais conclure ici pour ne pas être trop longue. Merci.
Merci de nous avoir présenté.